Alors, sur les analyses de Gilles, moi, je me focaliserai sur le choix du droit, parce que tu as beaucoup insisté sur le choix du droit. Alors, tout d'abord, le choix du droit, il est aussi possible en matière interne. Il est possible, le règlement Rome 1 sur le contrat permet, même en matière interne, de choisir la loi sous réserve du respect des règles auxquelles on ne peut pas déroger par contrat, c'est-à-dire l'ordre public. Cette disposition-là n'est jamais appliquée ou presque, mais il y a des possibilités de choix de la loi, y compris en matière interne, ou bien de choix de statut. On peut se placer sous un statut plutôt qu'un autre. Il y a aussi la possibilité de changer d'état. Hein, le changement de sexe est aussi autorisé. Donc il y a tous ces phénomènes d'autonomie renforcés par le droit européen qui permettent aux individus d'opter, de choisir, de changer leurs droits, leur statut, leur état. Mais en matière transnationale, on est dans un changement d'échelle parce qu'il n'y a pas d'état mondial. Et il y a cette mise en concurrence des systèmes juridiques qui fait que les acteurs peuvent faire leur marché au sein des différents droits et des différentes lois. Ce qui explique aussi, et je crois que ça a été dit en début d'après-midi, toutes les réformes récentes, notamment du droit français. Si on a une analyse formelle des lois récentes en droit des obligations, en droit des sociétés, en droit de l'arbitrage, etc., des 20 dernières années, on va dire, ben le législateur français a réformé son droit. Bon. Sauf que toutes les réformes vraiment importantes, elles sont liées à un contexte mondial, global, qui fait que le législateur doit adapter sa loi, la rendre attractive, la rendre attrayante. Et la réforme de 2016 en droit des obligations par l'ordonnance de février 2016, a été fortement dictée par la volonté de moderniser le droit français, de le rendre plus attractif dans un contexte global, de manière à augmenter le choix de loi en faveur de la loi française. Et pendant longtemps, on a renvoyé à la loi française l'image d'un droit archaïque, venant du code de 1804, aujourd'hui, ben, nous avons un droit moderne qui est plus attractif. Et aujourd'hui aussi, donc, on parle de l'État séducteur. L'État est séducteur, il séduit les agents économiques, les investisseurs, les contractants. Venez chez moi, investissez chez moi, choisissez ma loi, venez créer une société sur mon territoire. Donc, l'image d'un État tout-puissant, d'un État souverain, d'un État Léviathan, etc., elle demeure encore peut-être dans l'imaginaire collectif, mais elle est très affaiblie. On parle d'État séducteur. Ce qui veut dire aussi que le contrat, dans cette perspective-là, le contrat devient un véritable acte normatif. Et dans la pyramide, si on veut reprendre cette expression et cette image, et si on veut mener une analyse positiviste, hein, le contrat devient un acte normatif au sens plein du terme. Et dans la hiérarchie des normes au niveau global, c'est bien souvent le contrat qui est au sommet et la loi en dessous. Et donc il y a vraiment un renversement de perspective qui est très impressionnant et qui est lié à la mise en concurrence des services, des systèmes juridiques et des différentes lois. Et alors, et c'est là où je voudrais en venir, et c'est par là que je terminerai, tout cela pose avec une très grande acuité la question de l'ordre public. Parce que si on peut choisir son droit, si on peut choisir sa loi, si on peut faire ce qu'on veut dans un contexte global, quelles sont les limites? Parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté absolue. On est tous d'accord pour dire cela. Et donc, si l'on parle de droit transnational, on parle nécessairement d'ordre public transnational. Si on parle de droit global, on parle nécessairement d'ordre public global. Mais alors, comment le construire? Les arbitres peuvent fournir des solutions dans la mesure où il y a un ordre public transnational qui est contesté. Hein. Je ne rentrerai pas dans les contestations de cet ordre public, mais il est contesté. Certains disent que c'est de la foutaise. Bon, mais il y a quand même des traces d'un ordre public transnational dans le cadre de l'arbitrage. Prenons deux exemples. Un exemple avéré, c'est la lutte contre la corruption. on sait qu'il y a certains contrats d'intermédiaires qui masquent des pratiques de corruption qui viennent à l'arbitrage, parce qu'il y a des clauses d'arbitrage. Les arbitres développent une jurisprudence au nom de laquelle la corruption est considérée légitimement comme étant contraire à un ordre public commun à l'ensemble des nations, mais pas uniquement les nations. C'est un mal endémique contre lequel il convient de lutter pour les besoins des peuples, pour les besoins des États, mais aussi pour les besoins des agents économiques. Donc il y a un intérêt commun de tous les acteurs à lutter contre la corruption et donc à en faire un enjeu d'ordre public transnational. Et l'arbitre, en tant que juge de droit commun des activités économiques globalisées, se réfère à cet ordre public transnational. Un second exemple qui est celui des droits de l'homme, des droits humains, tu en as parlé avec le projet de convention, les arbitres vont encore plus dans le futur être au contact de pratiques des entreprises qui potentiellement sont contraires aux droits de l'homme, et il n'y a pas de doute pour dire, enfin pas de doute, c'est plus compliqué que ça, mais disons si on est optimiste, il n'y a pas de doute pour dire que les arbitres développeront un ordre public transnational en la matière. Sachant que l'ordre public dans ces conditions-là, ce n'est pas nécessairement un méga ordre public ou un méta ordre public, un ordre public commun à tous, parce que c'est très compliqué à construire. Ça peut être aussi un ordre public par le bas, construit de manière casuistique, y compris par les juges nationaux, par les contrats, par les codes de conduite, etc. etc. Donc c'est un ordre public qui, paradoxalement, peut avoir des sources privées. Un ordre public de sources privées. En tout cas, un ordre public qui mêle des sources publiques, des sources privées, ce qui est aussi un indice du brouillage entre la sphère privée et la sphère publique. Mais cet ordre public est plus que nécessaire. Et je pense que dans nos réflexions sur le droit global ou le droit transnational, il faut aussi intégrer de manière forte la dimension ordre public, parce que cela ne peut pas être acceptable. On a parlé tout à l'heure d'acceptabilité. Il ne peut pas y avoir d'acceptabilité globale si c'est la loi du plus fort, si c'est la loi du plus malin, si c'est la loi du plus riche. Il y a aussi cet ordre public qu'il faut construire dans la difficulté, dans la douleur, dans la contradiction, dans l'ineffectivité, etc. Mais nous devons axer aussi nos réflexions là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.